vous. Tu peux, si tu veux rajouter un texte, je vois qu'il y a, il y a des guillemets, j'imagine que tu mets les titres du message, c'est ça? Ah, c'est toi, pardon. L'identité et la force du chrétien. L'identité et la force du chrétien. Alors, donc, vous êtes dans la série de Galates, c'est une série juste exceptionnelle, vraiment merveilleuse, pour nous chrétiens. Mais au moment où Paul l'écrivait, c'était vraiment pas du tout merveilleux pour lui. Vraiment, c'était... il était super. Donc, quand Paul il a entendu des nouvelles des Galates, cette église pour qui il a payé le prix, pour qui il a travaillé dur, mais vraiment, lui, il était vraiment inquiet. Il était vraiment, vraiment inquiet. Et... C'est pour ça que cette lettre a été écrite, parce qu'il y avait une grande inquiétude, une grande tristesse même de l'apôtre Paul. Je pense que je vous ai déjà dit, mais dans la majorité des lettres que l'apôtre Paul écrit, hein, il commence toujours par « Je remercie le Seigneur pour qui vous êtes, je remercie le Seigneur pour ce qu'il fait dans votre vie. » Même les Corinthiens qu'on connaît être une église où il y avait la division, où il y avait des gens qui vivaient dans la débauche, etc. Paul commence en disant « Vous, vraiment, le Seigneur vous a béni, vous avez reçu tous les dons. » Donc, Philippiens, Éphésiens, Colossiens, à chaque fois, Paul loue le Seigneur pour qui ils sont. Et Galates, c'est cette lettre où il ne commence pas par la louange. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Et pourquoi la lettre est formidable pour nous aujourd'hui? C'est que, voyant que l'évangile, le cœur même de la foi chrétienne, a été remis en cause dans cette église, a été mis à mal, eh bien Paul remet les choses à plat et pose les fondements les plus importants de la foi chrétienne. Et donc pour nous, qui sommes plus de deux millénaires après, bah c'est super parce que Galates nous montre c'est quoi la foi chrétienne en cinq chapitres. En six chapitres, on a toute cette grâce de voir les points fondamentaux de la foi chrétienne. Et donc, c'est pour ça qu'on peut se réjouir de cette lettre. Donc, le cœur de l'évangile est en jeu dans Galates. Vous l'avez vu depuis maintenant quelques semaines. Il y a un retour à la loi qui est très, très dangereux, que Paul est en train de combattre. Et dans la lettre, il parle aux deux, il parle à ces chrétiens, et il essaye aussi de lancer des piques à ces personnes qui essayent de ramener les Galates dans cette sous la loi. Et pour que ce soit encore le Seigneur qui nous inspire, qui nous parle à travers ce que je vais dire, je vais aussi me placer devant Dieu, prier encore et puis demander au Seigneur que voilà, tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a reçu nous transforme, pas nous informe, pas augmente notre connaissance, mais que demain vous soyez différents à cause de ce qui s'est passé cet après-midi. D'accord ? Prions encore. Merci Seigneur Jésus pour la grâce immense de pouvoir lire ta parole, chanter tes louanges, être proche de toi, en famille, ensemble. Et nous voulons encore te demander d'agir avec puissance à travers tes textes. Ce texte que nous aimons, ce texte que nous chérissons, qui nous permet de comprendre qui tu es, qui nous permet de comprendre ce que tu attends de nous aussi, qui nous permet de puiser en toi nos forces. Ce texte de Galates 4, éternel roi, nous voulons l'étudier avec toi par ta puissance et que tu filtres ce que je vais dire, que ce soit toi, éternel roi, qui parle au cœur des uns et des autres, qu'ils retiennent ce que toi, tu estimes comme être bon. Béni sois-tu notre Dieu, en ton nom. Amen. Donc, l'apôtre Paul discute avec les Galates, leur écrit, et il fait beaucoup d'argumentations. Et il utilise beaucoup de logique aussi. N'est-ce pas? Je pense que vous avez pu le voir à travers les différentes pages. Il essaie d'argumenter et il dit, bon alors, comment est-ce que vous avez reçu la foi? Est-ce que c'est par vos propres efforts ou est-ce que c'est en croyant, en faisant confiance? Alors, comment est-ce que vous allez marcher maintenant? Est-ce que vous pensez que ça va être maintenant par vos propres efforts ou est-ce que c'est encore en croyant? Donc, il a beaucoup de logique comme ça. Il dit, Abraham, le père des croyants, ben, c'est le père des croyants, donc c'est pas le père de ceux qui sont sous la loi. Donc, c'est le père, voilà, il donne beaucoup de logique pour que les Galates comprennent que leur retour sous la loi est dangereux. Parce qu'ils sont en train de sortir de la vraie grâce de Dieu. Ils sont en train de sortir du cœur même de l'évangile de Jésus-Christ. Le salut uniquement par la foi en Jésus. Ça veut dire sans aucun effort de notre part. Ce qui fait que tu es chrétien, cet après-midi n'est aucunement parce que tu as compris plus de choses que les autres, ou parce que tu as été plus saint avant, ou parce que tu as été élevé dans une bonne famille. C'est uniquement parce que tu as cru ce que Jésus a fait et tu as accepté son pardon et son salut. Et donc, une fois que ça c'est vrai, Paul continue en disant, c'est comme ça aussi qu'il faut continuer à marcher. Et donc, c'est tout ça qu'il essaye d'argumenter. Et donc, il va argumenter dans les versets 21 à 31 avec une histoire que les Juifs connaissent très très bien. Très très bien. Je pense que nous aussi, surtout si on était à l'école du dimanche ici. L'histoire de deux femmes et les deux fils qu'elles ont eus. Donc, l'histoire de Sarah et de Hagar. Et donc, il introduit, il va utiliser une image pour expliquer que les personnes qui pensent que c'est grâce à la loi qu'on trouve la faveur de Dieu, grâce au respect de la loi mosaïque, il va utiliser cette image. Donc, il va leur expliquer, c'est pour ça qu'il commence cette introduction. Mais vous comprenez pas la loi? Dites-moi, vous qui êtes sous la loi, verset 21, ne comprenez-vous pas la loi? Donc là, il donne cette image d'Abraham, qui est pour les Juifs quelqu'un de très très important. Vraiment, ils estiment que c'est parce que Abraham a reçu les promesses et que sa descendance sera bénie, ta descendance sera bénie. Ça, c'est des promesses que Dieu a données à Abraham. Les Juifs se disent, nous sommes les enfants d'Abraham, donc toutes les promesses de Dieu sont aussi pour nous. Et notre identité, ce que nous sommes aujourd'hui, vient de lui, d'Abraham. Et donc, Paul reprend cet exemple, qui est très cher aux Juifs qui sont en train un petit peu de déstabiliser l'église de Galate. Et donc voilà, et donc il va prendre cette image. Donc il dit, Abraham a eu deux fils, verset 22, un de la femme esclave et un de la femme libre. Donc, femme esclave Agar, femme libre Sarah. Je pense qu'on se rappelle de l'histoire, juste pour... peut-être si certains ne connaissent pas forcément toute l'histoire. Donc Abraham, qui est considéré comme le patriarche des Juifs, et Dieu le choisit et lui dit, je vais te bénir et je vais te donner une grande descendance. Donc Abraham y croit, il dit, ah waouh, c'est super, grande descendance. Et d'autant plus que c'est assez encourageant pour lui parce que sa femme n'avait pas d'enfant. Donc il se dit, waouh, si Dieu dit ça, c'est que ça va se faire. Et donc, les années passent, et qu'est-ce qui se passe? Toujours pas d'enfant. Et donc, sa femme n'a toujours pas d'enfant. Et quand Dieu lui a dit l'année prochaine, donc Dieu qui se révèle à lui encore, et lui dit l'année prochaine, tu auras, à la même période, tu auras un enfant, elle était déjà tellement âgée, Sarah, qu'elle rigole. Non, qui peut avoir un enfant à mon âge? Et tellement elle ne croyait plus. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que Abraham et Sarah, ayant, je pense que la majorité on connaît l'histoire, mais c'est quand même bien de se rappeler un petit peu les faits, croyant que en fait c'était peut-être à eux en fait de trouver des solutions pour que Abraham ait une descendance. Et bien il y a Sarah qui dit, prends ma servante. En ce temps-là, ça se faisait, hein. prends ma servante et puis avec elle tu vas sûrement avoir une descendance. Effectivement, elle a eu une descendance. Ismaël est né, mais ce n'était pas l'enfant que Dieu avait choisi. On va voir comment Paul met en valeur ce qui s'est passé avec Ismaël pour nous enseigner nous aussi. C'était pas la façon dont Dieu avait établi les choses. Il a dit, mais c'est de Sarah que tu auras un enfant. Pas un enfant de toi, mais aussi de Sarah. Donc vraiment, ces deux choses-là importantes. Et donc, voulant faire un peu à leurs efforts, Abraham et Sarah trouvent une solution qui ne fut pas la bonne, évidemment. Et Dieu, dans sa grâce, a permis à Ismaël de grandir, mais il lui a dit, c'est pas ça. Et donc, on connaît la suite. L'année d'après, le passage de Dieu au milieu du campement d'Abraham, Sarah tombe enceinte. De qui? Ah oui, Sarah tombe enceinte d'Abraham. Et comment il s'appelle l'enfant? Isaac. Et donc, Isaac naît et c'est lui l'enfant de la promesse. Donc on voit vraiment l'enfant de la promesse et de l'autre l'enfant de l'esclave. C'est une servante, une esclave ici. Et donc c'est cette image. Et ils savent, les juifs judaïsants qui sont en train d'entraîner l'église de Galate vers le judaïsme, savent que eux ils sont descendants biologiques d'Isaac et que ne sont pas descendants d'Ismaël et d'Agar. Donc voilà un petit peu le contexte que les juifs connaissent très bien. Et ils savent que la promesse est vraiment donnée à Abraham, Sarah, Isaac et tous ceux qui suivent derrière. Et c'est ce contexte que Paul va utiliser pour leur faire comprendre que revenir à la loi, c'est sortir de leur identité. Et il va opposer, il va prendre quelques éléments de cette histoire pour leur montrer comment ils sont en train d'opposer deux réalités et ils sont en train de passer d'une réalité en Christ à une réalité sous la loi, qui est comme si on passait de la naissance auprès d'Isaac en se disant bah maintenant je deviens un enfant d'Ismaël. Et pour eux, mais c'est scandale. Et c'est pour ça qu'il utilise cette image. Celui qui est esclave, donc il va opposer plusieurs choses. Il va opposer esclave et femme libre, esclave et liberté. Il va opposer effort humain et promesse de Dieu. Il va opposer la foi et la loi. Il va opposer l'Égypte à Israël. Il va opposer la femme véritable à la servante. Il va opposer être prisonnier à être libéré. Tout ça pour leur faire comprendre que revenir sous la loi, c'est changer carrément d'identité. Entièrement d'identité. C'est sortir. À un moment, il dit, vous êtes déchu de la grâce, le terme. Et ça, c'est la situation de ces Galates. C'est pour ça que Paul, quand il a commencé cette lettre, il n'était pas très content. Il dit, de la même façon qu'il y avait Isaac d'un côté, Ismaël de l'autre, Israël d'un côté, Égypte de l'autre, la promesse d'un côté, l'effort humain de l'autre, de la même façon vous devez voir les conséquences de la loi et les conséquences de ceux qui se mettent, qui marchent par la foi. Donc il le dit, hein, c'est une valeur allégorique, verset 24. Ces deux femmes représentent deux alliances. L'une vient du mont Sinaï et donne naissance à des esclaves. Ceux qui se mettent sous la loi sont comme des gens qui se mettent comme des esclaves. Agar, c'est le mont Sinaï, verset 25. Et c'est malheureusement la Jérusalem actuelle. Mais une autre Jérusalem, la Jérusalem d'en haut, qui est la conséquence de la promesse, verset 26, elle est libre. Elle est libre. Et là, il dit, si vous êtes en Jésus, ça c'est votre mère. Si vous êtes en Jésus, ça c'est votre origine. Et c'est pour ça qu'il est vraiment en train de parler d'identité. Et la question finalement qui se pose pour chacun d'entre nous, c'est où est notre identité? C'est un peu la question que Paul est en train de poser aux Galates. Mais quelle est votre identité? Vous êtes de la Jérusalem terrestre qui représente Agar, la loi, les prisonniers, les esclaves, ou vous êtes de la Jérusalem céleste qui représente la foi, la liberté, le résultat de la promesse en Dieu? Il est vraiment en train de les mettre sous cette responsabilité. Vous êtes en train de basculer. En essayant de remettre la loi au centre de vos applications, vous êtes en train de basculer de votre identité en Christ à une identité d'esclave, de prisonnier. Et donc la conclusion, évidemment, mais c'est chasser cette vision prisonnier. Chasser cette vision d'esclave. Chasser cette vision de se remettre sous la loi. Et comment est-ce que cela peut nous toucher aujourd'hui? De trois façons. La première façon, c'est déjà se poser nous-mêmes la question, est-ce que je suis enfant de Dieu? Est-ce que je suis approuvé de Dieu? Est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Et si je... Et comment est-ce que je pense que je le suis? Est-ce que c'est parce que j'ai agi de la bonne façon? Est-ce que c'est parce que j'ai fait les bonnes actions? Est-ce que c'est parce que j'ai bien prié, bien lu la Bible, que je fais des choses qui sont bien, que je fais pas de trop gros péchés? Si c'est ça, que je suis meilleur que les autres, si c'est ça, eh bien la parole de Dieu nous dit qu'on est encore esclave en fait. On est encore sous la loi. On est encore condamné par les choses que nous faisons, parce que nous comptons sur nos propres efforts pour nous libérer. Est-ce que j'ai reçu la libération? Ou est-ce que je pense que c'est par mes propres efforts que je peux être sauvé? Et j'aime bien cette histoire que souvent les malgaches racontent quand ils parlent de l'évangile. Ils disent, vous savez, on peut y prendre en France, ils disent, vous savez, bon, en France, par exemple, il y a le savon de Marseille. Hein. Le savon de Marseille, on sait que le savon de Marseille, son objectif, c'est de permettre aux gens d'être propres, hein, n'est-ce pas? Et ma question, c'est si je suis sale, si voilà, je me mets dans la boue et je suis sale, est-ce que l'existence même du savon de Marseille suffit pour me rendre propre? Bah non. Il faut quoi? Il faut que j'aille en prendre et l'utiliser, n'est-ce pas? Et la même chose, et c'est que quand je prends ce savon et que je l'applique à moi-même, que je deviens propre. Et c'est la même chose pour Jésus-Christ. On sait que Jésus-Christ est venu pour sauver des pécheurs, n'est-ce pas? On sait que Jésus-Christ est venu pour libérer ceux qui se sentent sales. Il l'a vraiment fait. Et autant que le savon de Marseille, même plus que le savon de Marseille, peut être efficace pour nous laver, eh bien, Jésus-Christ est efficace pour nous pardonner. Ça me rappelle cette chanson-là. Le savon lave le visage, mes deux petits pieds, mes mains, oh quel bonheur. On commence comme ça, et après c'est... Et après, c'est l'image de Jésus, justement. Mais Jésus, pour me rendre plus propre, lui seul peut laver mon cœur. Eh bien, c'est la même chose. Ce n'est pas parce que tu sais que Jésus existe et que tu sais que Jésus a vraiment payé que vraiment tu te l'es appliqué à ta vie. Il faut que tu t'approches de lui. Et ça, c'est ce que j'espère pour chacun d'entre nous cet après-midi. Que chacun d'entre nous puisse bénéficier de cette grâce. Ça, c'est la première chose. C'est, fais-tu partie de ceux qui ont été libérés, qui ne sont plus de l'esclave? Et si ce n'est pas le cas, cet après-midi, tu peux accepter la libération, le pardon des péchés. C'est encore ouvert pour toi. La deuxième, c'est pour nous, chrétiens, dans quelle mesure est-ce que notre vie de chrétien est une vie de liberté, est une vie conduite par la promesse, est une vie où on s'attend à Dieu, ou, au contraire, est une vie de prisonnier, est une vie conduite par la culpabilité, est une vie où finalement c'est nos efforts qui conduisent qui nous sommes. Alors, une des façons de le mesurer, il y en a énormément. C'est votre taux d'irritabilité. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui vous irritez facilement ou pas? Eh bien, c'est la question que je vous pose. Et pourquoi? Parce que quand on s'irrite, c'est qu'on estime que la chose devrait être différente et je mérite, ou en tout cas, j'ai le droit qu'elle soit meilleure pour moi. Ah, ça m'énerve, ça. Ça m'énerve. Les micros devraient être plus droits, là. Oh. Maintenant, il est tombé en plus. Oh. Voilà, je m'irrite. Pourquoi je m'irrite? C'est parce que j'estime que des efforts humains devraient permettre cette correction. La grâce, c'est que de toute façon, j'aurais dû avoir pire. Et quelqu'un qui disait, si on lui disait « Comment tu vas ?» Il disait toujours « mieux que je ne le mérite ». Mieux que je ne le mérite. Parce qu'il savait qu'il était un pécheur qu'il devait être condamné. Et donc, lui savait toujours que quoi qu'il arrive, de toute façon, je suis pardonné. Et donc, la question que j'aimerais vous poser, pour qu'on puisse combattre, justement, cet état d'esprit, comme Paul disait, chasse, chasse la femme esclave, mais je vous invite à peut-être prendre juste une ou deux minutes avec votre voisin et dire, moi, souvent, ce qui m'énerve le plus dans la vie, c'est, et je vous laisse partager peut-être avec votre voisin, bon, les couples, c'est l'occasion de résoudre des problèmes au cas où. Mais voilà, juste, qu'est-ce qui dans votre vie, n'ayez pas peur, hein, y a toujours quelque chose qui nous irrite. Et l'idée, c'est de pouvoir prier après pour ça. Qu'est-ce qui dans votre vie vous irrite le plus souvent, ou vous énervez, ou peut-être même vous perdez le contrôle, peut-être à deux ou trois. Et voilà, donc juste une ou deux minutes. Très bien. Encore 30 secondes peut-être. Très bien. Merci. Merci à chacun, merci à chacune. Merci de votre honnêteté, hein, c'est pas toujours facile de... C'est pas toujours facile de dire à quelqu'un ce qui nous irrite, surtout si en face de nous c'est... Imaginez, je me retrouve devant Laurent et je lui dis « Écoute, moi ce qui m'irrite, c'est les gens qui mettent des chemises orange et rose, un peu comme toi d'ailleurs. » Non, j'apprécie beaucoup tes chemises. Oh, oh. Donc, est-ce que des gens veulent donner des petits exemples, des gens qui ont pas forcément honte ou qui veulent dire voilà, moi ce qui mérite le plus c'est Oui, vas-y alors. Les mauvaises notes. Ah, c'est à partir de quoi une mauvaise note pour toi? Ah ah. Quand tu te dis que j'aurais pu faire mieux. J'avais... D'accord, super. Merci Laurent. D'autres personnes? Oui. Ah ah. Peut-être beaucoup se retrouvent aussi là-dedans. Mais c'est bizarre, c'est pas comme ça que ça aurait dû se passer. Effectivement. D'autres personnes, qu'est-ce qui vous irrite le plus? Oh, les gens en retard. Surtout les prédicateurs en retard. Alors là, c'est le pire. Là, c'est le pire. D'autres personnes, dernière? Oui. Pessimiste. Ah oui, qui ne savent pas donner grâce, tout à fait. Ça me rappelle un jour, je ne sais pas si vous avez raconté, c'était des... le pasteur avec qui je travaille, il est irlandais, et il discute avec quelques Français. Et il dit, c'est marrant, mais souvent on dit, il y a une caractéristique comme ça, on dit les Français sont râleurs. Et il y avait c'est des Français. Et là, il y en a un qui fait, les Français, mais vraiment, ils sont râleurs. D'ailleurs, les pires, c'est sur les bars. Alors, dans les bars, ils sont vraiment râleurs, mais vraiment, ils sont jamais contents et tout. Et il commence à râler. Et effectivement, faire grâce aux autres, ne pas râler, ne pas s'énerver. Beaucoup de gens, malheureusement, peuvent l'être. Qu'est-ce qui nous irrite le plus? Qu'est-ce qui nous agace le plus chez les autres? Si on est dans un continuel agacement, insatisfaction, peut être un indicateur. Donc quand vous savez que ça vous irrite, essayez de voir dans quelle mesure ça vous impacte dans votre quotidien. Est-ce que ça mine votre paix? Et là, c'est intéressant aussi de voir qu'est-ce qui mine votre paix. Et vous le verrez après, les conséquences que dans les prochains messages que Paul propose pour les gens qui sont sous la loi, les œuvres de la chair se manifestent fortement. Pourquoi ? Parce que quand on est sous la loi, en fait, on estime que c'est nos propres efforts qui nous amènent où nous en sommes. C'est ça l'idée. C'est que je reçois ce que je mérite, et c'est notre société, hein. Aujourd'hui, on dit, voilà, tu as fait ça bien, bah, tu reçois bien, tu fais ça mal. Je reçois ce que je mérite, et donc, quand je suis béni, c'est parce que j'ai bien été un bon chrétien, et quand ça se passe mal, et ben c'est parce que je suis un mauvais chrétien. Et quand les autres font bien ou font mal aussi, on estime que ça c'est des bons, c'est des mauvais chrétiens, donc on peut les mettre dans les cases. Et ça c'est important, et c'est là que la paix peut être en jeu. C'est là que l'irritation peut être en jeu, quand on se met toujours dans cette dynamique de mes propres efforts. Qu'est-ce qui enlève ta paix? Ça aussi c'est une question que je peux vous poser. Qu'est-ce qui enlève ta joie? Est-ce que derrière, il y a cette remise sous la loi, entre guillemets? Donc ça, c'est un point important pour nous. Ce qui est important dans cet élément, c'est d'où vient votre force pour votre vie chrétienne? Est-ce qu'elle vient de vos efforts personnels? Donc il le dira, hein, dans ce texte, il dit qu'il y a la volonté humaine, dans ma version, c'est ça le terme, et qu'il y a la promesse de Dieu. Est-ce que votre vie chrétienne est le résultat de tous vos efforts personnels, de votre capacité à être bon dans tous les domaines? Ou est-ce qu'elle est le résultat de la grâce de Dieu et de la promesse de Dieu? Est-ce que votre combat contre tel péché, c'est si vous arrivez vraiment à lire les meilleurs bouquins et avoir les meilleures prières et vous discipliner de la meilleure manière? Ou est-ce avant tout le résultat de la grâce de Dieu? Évidemment, le Seigneur, dans sa grâce, te poussera à agir. Mais avant tout, ta délivrance face à un péché commence dans sa grâce. Est-ce que cette relation brisée avec telle personne, tu te dis qu'il n'y a plus d'espoir parce que la personne est différente, parce que toi, tu n'arrives plus à l'aimer, parce que tu n'arrives plus à l'accueillir, parce qu'elle t'énerve? Et donc tu te dis, j'arriverai pas? Ou est-ce que tu te dis que cette restauration est avant tout le résultat de la grâce de Dieu? Ça veut dire Dieu qui fait une promesse, que pour lui les relations sont importantes, et donc qu'il espère que cette relation avec cette personne s'améliorera. Où est-ce que je pose ma force? Est-ce que ton investissement dans l'Église, c'est le jour où tu arriveras à être super motivé, bien t'organiser et mieux tout comprendre? Ou alors c'est avant tout la grâce de Dieu? Tout dans notre vie chrétienne doit être le résultat de cette promesse. Les promesses dans la Bible sont nombreuses. Dieu a préparé pour nous d'avance des bonnes œuvres, Ephésiens 2:10. Attends-toi à ce que tu vas faire vienne de Dieu. Donc on a vu que Paul utilise justement cette image de dire, mais quand vous basculez d'un côté ou d'un autre, vous changez ce qui vous motive, vous changez ce qui est votre source, vous changez ce qui est votre force, le titre de Est-ce que votre force en tant que vie chrétienne vient de vos efforts personnels ou de votre grâce, de la grâce que Dieu vous a accordée? Et pourquoi je pose aussi la question par rapport à l'irritation, c'est que quand le chrétien comprend de mieux en mieux qu'il est le résultat de la grâce, eh bien, il sera d'autant plus lui-même plein de grâce vis-à-vis des autres. N'est-ce pas? Quand il comprend qu'il a été pardonné, il sera plus à même de pardonner. Quand il comprend que les erreurs qu'il fait, que les erreurs que les autres font sont aussi ses erreurs parfois, il sera plus à même d'accueillir et de pardonner et d'accepter. Moi, je le vois bien dans le couple. Un jour, je sais plus c'était quoi comme objet, mais ça arrive souvent. Donc, je peux prendre n'importe quel objet. Ah! Mais qui a laissé cette assiette sur la table, Priscilla? Ah, c'est moi. C'était moi-même. Donc, je m'énerverai plus de la même façon, puisque je sais que moi aussi, je fais ces erreurs. Quand on comprend la grâce de Dieu vis-à-vis de nous, notre attitude vis-à-vis des autres s'adoucit. Quand on est très exigeant vis-à-vis des autres, c'est peut-être qu'on n'a pas encore bien compris cette grâce de Dieu vis-à-vis de nous. Ce pardon vis-à-vis de nous. Donc la force du chrétien vient de la grâce de Dieu. Et votre attitude vis-à-vis des autres changera aussi. La deuxième chose aussi que Paul met en jeu ici, c'est l'identité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il remet en cause l'identité de ces juifs. Il dit, mais si tu te remets sous la loi, t'es pas enfant d'Abraham. T'es pas enfant de la promesse. T'es pas enfant d'Israël. Vraiment, c'est ça. Et eux, ils étaient super fiers d'être enfant d'Abraham. Super fiers d'être enfant de la promesse. Super fiers d'être enfant d'Israël. Super fiers d'être la promesse pour eux. Et là, Paul est en train de dire, mais t'es en train de changer. Tu te mets dans une autre identité. Ce n'est plus ce que tu penses être. Et la même chose aussi pour le chrétien. En qui es-tu vraiment? Es-tu, vis-tu en Jésus-Christ? Parce que la vie chrétienne, c'est vivre uni à Jésus-Christ. En cherchant à accomplir nos propres efforts, on sort de notre identité de chrétien. On est en train de remettre en cause, aller jusque-là. On est en train de s'enlever de la racine même de la foi chrétienne. C'est pour ça que notre ami Martin Luther a été si radical quand il a relu les évangiles et qu'il a vu la grâce au centre de la foi chrétienne. C'est pour ça que ça a levé des foules, parce qu'on est en train de priver le cœur même de l'évangile de Jésus de sa substance. Ne te prive pas du cœur même de l'évangile de Jésus. C'est Jésus qui paye pour toi, non seulement pour que tu sois sauvé, mais aussi c'est pour que tu vives une vie qui lui plaise. Comment est-ce que tu gagnes la faveur de Dieu? En venant à Jésus et en le laissant te transformer. C'est la seule façon que Dieu peut être apaisé, c'est parce que Jésus était parfait. Et ça, c'est vrai à ta conversion, mais c'est aussi vrai au quotidien, chaque jour de ta vie chrétienne. Comment est-ce que tu apaises Jésus? Comment est-ce que tu apaises Dieu? C'est en te remettant sous la grâce de Jésus-Christ. Seigneur, j'ai besoin de toi encore dans tel domaine. J'ai besoin encore de toi dans tel domaine. J'ai besoin de ta grâce. Et l'effort que Paul encourage, c'est d'identifier ce qui est de l'ancienne nature. Chasse l'esclave et son fils, parce qu'ils n'ont rien à voir avec la promesse. Qu'est-ce qui, dans notre vie, est encore sous la loi? Qu'est-ce qui, dans notre vie, est encore le résultat de nos propres efforts? Identifions-le et chassons-le. On a eu un super moment quand on était à la semaine de Saint-Maur, où justement on avait eu ce temps de partage sur Matthieu et qu'est-ce qui était encore un peu sous la loi aussi, on avait eu ça. Et souvent, on voyait que le regard des autres, la pression du regard des autres, était un domaine qui pouvait souvent revenir. Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Il peut être plein de sujets. Mais qu'est-ce qui, dans notre vie encore, est une pression qui ne vient pas de Dieu et qui nous pousse à agir de telle ou telle façon? Il est important qu'on puisse l'identifier dans notre vie pour dire avec Paul, on chassera toutes ces choses-là parce qu'on est libre en Jésus. on est libéré de toute pression, de toute chose qui pourrait nous amener à culpabiliser. Et comment réconcilier souvent, parce qu'on se dit oui mais alors est-ce que ça veut dire que je dois tout faire, que je peux, je suis libre de tout faire, du péché ou du pas péché? Évidemment, vous savez bien que non, et je pense que vous l'avez déjà vu, mais j'aime bien ce qu'un pasteur nous avait montré. Il avait montré ce triangle, il avait dit: vous êtes appelés à obéir. Donc un triangle. Mais il y a aussi la grâce. L'effort humain dit: Ruben, obéis. La grâce de Dieu dit: Ruben, viens à la grâce pour obéir. C'est en venant à la grâce que tu vas réussir à obéir. C'est en venant à Jésus que tu vas réussir à accomplir ce qu'il te demande. C'est en venant et en recevant tout ce que tu ne mérites pas que tu vas réussir à accomplir ce qu'on te demande de faire. Et il y a ce passage obligatoire par la grâce pour obéir. Et c'est là que toute notre obéissance prend son sens. Parce que je viens à Jésus, je reçois de lui sa vie, sa joie, sa paix, sa force, son amour, que je peux exprimer de la joie, exprimer de la paix, exprimer de la force, exprimer de l'amour. Et donc Paul termine ici, avant de passer à la suite, il réaffirme, et il va recontinuer dans Galates 5, vous allez voir, c'est pas fini. Il veut vraiment leur faire comprendre que vous êtes libres, les frères, vous êtes libres. Enlevez tout ce qui vous enchaîne, tout ce qui vous emprisonne, tout ce qui ne vient pas de Jésus, tout ce qui vous enlève d'une intimité avec Jésus. Vous êtes enfants, ne revenez pas en tant qu'esclaves. C'est vraiment le souci que Paul a pour les Galates. Et il leur dit: c'est pas juste votre force qui est remise en jeu là, c'est pas juste votre énergie de chrétien, c'est votre identité même de chrétien. Parce que soit tu es en Jésus et tu vis en Jésus, soit tu t'enlèves de cette grâce. Tu es fils mais tu vis comme un esclave. Tu es libre mais tu vis comme un prisonnier. Je sais pas si vous connaissez cette histoire d'un gars qui était donc il y avait la guerre de, je crois que c'était la guerre du Vietnam ou d'Indochine, des deux. Et puis lui, il se dit: ah, mais ça me fait trop peur la guerre. Et donc il était soldat. Et donc il se dit: mais je vais me terrer, je vais aller dans la terre. Et hop, il se met dans la terre et tout, il creuse un trou et puis vraiment personne dans la jungle, personne ne peut savoir où il est. Et puis donc voilà, il vit là et tout. Et un jour, il réapparaît. 10 ans après. 10 ans après la fin de la guerre. Il avait une barbe, il était tout maigre. Il avait vécu terré, apeuré, alors que la guerre, depuis 10 ans, était déjà finie. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Jésus nous a libérés de toute oppression. Vivons libres. Ça veut dire en venant à sa grâce, et il accueille tout le monde. Et en acceptant un cadeau de sa part. Des promesses sur nous pour vivre cette vie de liberté. Et je vais juste terminer par, comme j'aime bien le faire, par un temps où vous allez partager avec votre voisin un domaine. Vous dites: là-dedans, effectivement, si je peux avoir la grâce de Dieu, je serai vraiment heureux. Ou j'aimerais vraiment me rappeler des promesses de Dieu dans tel domaine. Dans un domaine, ça peut être un trait de caractère, ça peut être une relation, ça peut être une situation d'avenir qui vous pèse, qui est lourde pour vous, où vous n'arrivez pas à faire confiance en Dieu. Y a-t-il un domaine où vous sentez encore que vous avez une oppression, que vous pourrez dire: oui, là-dedans, je ne pense pas être vraiment libéré. Y a-t-il un péché encore? Peut-être sans nommer le péché, si c'est un péché trop intime. Vous dites: j'ai besoin d'une grâce particulière de Dieu. J'ai besoin d'être libéré. J'ai besoin de recevoir une promesse dans ce domaine. J'ai besoin de ne plus être comme un esclave, mais comme quelqu'un de libre dans ce domaine-là. Et on continuera et on priera les uns pour les autres. Et ensuite, je terminerai par la prière. Donc voilà, tournons-nous vers notre voisin. Partons juste un domaine. Si c'est trop personnel, vous pouvez juste dire le type de domaine. Mais l'idée, c'est qu'on puisse identifier ensemble quelque chose qui nous libère, où on a besoin d'être libéré et transformé. Je vous invite à à réfléchir à prier les uns pour les autres. Encore 20 secondes. Seigneur, merci encore pour l'occasion qu'on a d'être tes enfants. Je te prie pour chaque personne dans cette salle, notre Dieu, notre Roi. Tu vois les combats face auxquels nous sommes, tu vois les domaines dans lesquels on a absolument besoin d'être libéré, absolument besoin de ne plus vivre comme esclave, absolument besoin de nous rappeler tes promesses, absolument besoin de t'écouter, absolument besoin de nous rappeler que tout est en Jésus-Christ. Et Père notre Dieu, je te prie vraiment que chacun d'entre nous puisse enlever, chasser toute forme d'esclavage dans notre vie, afin de vivre réellement libre en Jésus-Christ. Je prie pour toute personne, éternel Roi, qui a besoin de venir à toi, d'être libéré, d'être pardonné, d'être réconcilié avec toi. Tu leur accordes cette grâce cet après-midi. Je te prie pour tous ceux qui sont accablés sous le poids d'un lourd fardeau, notre Dieu, qui sont conduits dans leur vie par une certaine pression, une certaine oppression peut-être. Je te prie qu'ils viennent à toi, chargés, fatigués, et qu'ils reçoivent ta libération, ta liberté. Comme ces Galates, comme tous les chrétiens de cette terre, Seigneur Jésus, que nous puissions tous vivre libérés en Jésus-Christ. Bénis encore l'Église de Saint-Maur qui t'appartient. En ton nom, notre Roi. Amen. Merci à tous.